Vous écoutez, on lit pour vous.
Des mythes tenaces et dangereux, une lettre ouverte de Maude Pontel, Mylène Bigaouet et Annick Brazo, parue le 30 août 2023 dans la presse. Maude Pontel est coordonnatrice générale, Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Mylène Bigaouet est directrice par intérim, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Annick Brazo est présidente, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Ils avaient une relation de couple houleuse. Ils n'allaient pas bien. Le couple semblait pourtant parfait. Les mythes qui entourent la violence conjugale ont la peau dure et empêchent souvent de voir les drapeaux rouges qui sont pourtant présents avant que ne surviennent les féminicides et les infanticides lorsque nous les regardons à travers le prisme de la violence conjugale. Alors que le bilan des victimes s'allonge, nous tenons à faire quelques rappels essentiels. En 1995, le Québec s'est doté d'une politique qui définit clairement la violence conjugale comme un moyen choisi pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Rien, si ce n'est la volonté de l'auteur, ne justifie le contrôle, la violence ou l'homicide. Quand un homme tue sa conjointe, son ex-conjointe ou ses enfants, ce n'est ni un événement dépourvu de sens, ni un drame familial. Il s'agit de féminicide et d'infanticide calculé et planifié. Il ne s'agit pas d'un enjeu de santé mentale ou de consommation. Il s'agit d'une prise de pouvoir ultime. Il n'a pas perdu le contrôle. Il a choisi la violence. Mythe numéro 1. La violence conjugale a un profil type. Les études sont claires, la violence conjugale touche principalement les femmes et les enfants, et les agresseurs présumés sont des hommes dans 78,8% des cas. Cependant, la violence ne discrimine pas en fonction de l'âge, de la classe sociale, du quartier ou du niveau d'éducation. Cette croyance en un profil type d'agresseur et de victime contribue à minimiser la gravité du problème et à décourager les victimes de chercher de l'aide. Un conjoint violent et contrôlant peut paraître doux et attentionné en public. Cela fait partie des stratégies de contrôle qui limite la capacité de la victime d'agir et d'être crue. Il est impératif de comprendre que personne n'est à l'abri des effets dévastateurs de la violence conjugale, y compris les enfants, qui en sont aussi les victimes. Mythe numéro 2. La violence conjugale n'est que physique. La violence physique laisse des traces, alerte l'entourage, et la condamner publiquement fait consensus. Mais la violence conjugale peut prendre des formes bien plus subtiles, souvent invisibles pour les proches, ou encore banalisées par la société. Isoler, contrôler les activités quotidiennes et les dépenses, surveiller, humilier, toutes ces stratégies ont pour effet de priver la victime de sa liberté et de la placer dans un climat de peur constant. Les femmes qui vivent ces abus rapportent que l'effet cumulatif du contrôle, des menaces, du harcèlement et de l'isolement est souvent plus dévastateur que la violence physique. Contrairement à la croyance populaire, les féminicides ne sont d'ailleurs pas toujours précédés d'incidents de violence physique. C'est la raison pour laquelle il importe d'aller au-delà des actes de violence isolés pour s'intéresser à l'historique de la relation et détecter les signes de contrôle coercitif. Mythe numéro 3. La violence conjugale prend fin avec la rupture. On pense encore, à tort, qu'il suffit de partir pour mettre fin à la violence. De nombreuses études démontrent qu'au contraire, les facteurs de dangerosité s'accroissent au moment d'une séparation. Le deuxième rapport du comité d'examen sur les décès liés à la violence conjugale du bureau du coroner est catégorique. Dans toutes les situations étudiées, les événements se sont déroulés pendant ou après une rupture. C'est une période où l'agresseur cherche à reprendre le pouvoir sur sa victime en transformant et multipliant ses stratégies de domination et de contrôle, ce qui expose les femmes et enfants à de plus grands risques d'atteinte à leur sécurité, pouvant aller jusqu'à l'homicide. La non-acceptation de la séparation étant un facteur de risque important, la situation devient hautement dangereuse lorsque s'ajoute le harcèlement ou encore les craintes verbalisées par la femme ou par son réseau. Doit s'en suivre le déploiement rapide d'un filet de sécurité autour des femmes et enfants. Cela doit se faire par des analyses de risques adéquates de l'ex-conjoint, le déploiement de cellules d'intervention rapide et un accompagnement socio-judiciaire soutenu des victimes à toutes les étapes du processus judiciaire, si nécessaire. La société doit s'unir pour démanteler les mythes sur la violence. Il est également impératif de rappeler au gouvernement que la collaboration non partisane qui a permis des avancées reste indispensable. Le déploiement d'actions exige désormais une évaluation rigoureuse qui inclut tous les partenaires autour de la table. Pour lutter contre cette problématique sociétale, il est essentiel, entre autres, de travailler à l'éducation et à la sensibilisation du public ainsi qu'à la promotion de rapports égalitaires. C'était « Des mythes tenaces et dangereux », une lettre ouverte de Maude Pontel, Mylène Bigaouette et Annick Brazo, parue le 30 août 2023 dans la presse.
Un mauvais quart d'heure pour les réseaux sociaux. Un texte de Raphaël Germain, paru le 9 février 2024, dans la presse. On a beaucoup relayé, fin janvier, des images de Mark Zuckerberg s'excusant auprès de familles d'enfants ayant été victimes d'exploitation sexuelle sur les réseaux sociaux. Il n'y avait là rien de spontané. Zuckerberg était convoqué par le Sénat américain devant lequel se tenait une déconcertante audience sur ce grave sujet. Il exsudait le malaise et le désir d'être ailleurs. Il semblait même un peu terrifié de la terreur bête et brute d'un chevreuil pris dans la lumière des phares. Mais on avait beau chercher, il n'y avait pas de réelle contrition, ni dans la rigidité sans grâce de sa posture, ni dans le ton de sa voix. C'était un moment assez surréaliste quand même. Zuckerberg a fini par se lever après moult bégaiements seulement parce qu'un sénateur lui a dit « Des familles de ces enfants sont là, ici. Leur avez-vous présenté vos excuses? Voudriez-vous leur présenter vos excuses? Vous êtes à la télévision nationale. » Avant même que Zuckerberg se soit retourné vers les familles, des dizaines de journalistes s'étaient levés et massés autour de lui pour filmer l'événement avec leur téléphone. Il y avait quelque chose d'animal dans le mouvement, et même si on peut difficilement ressentir de la compassion pour Zuckerberg ou le percevoir comme une proie, c'est un peu l'image qui venait en tête. Une meute qui se referme autour de sa proie. Évidemment, la meute a par la suite relayé les images sur les réseaux sociaux que tout le monde était là pour dénoncer, et ce n'était là qu'une des absurdités manifestes dans ce cirque médiatique, l'autre étant l'allégeance politique des plus motivés des interrogateurs. Le sénateur en question, Joss Hawley, parlait avec aplomb et un outrage palpable qu'on lui a souvent entendu. Il est aussi connu pour ses positions anti-avortement, son conservatisme chrétien radical et le fait qu'il a été le premier membre du Sénat à déclarer qu'il refuserait de certifier la victoire de Biden en 2020. Un chic type, vraiment. Riche de grandes réserves de hargne, qu'il dirigeait ce jour-là vers les dirigeants du Big Tech, comme l'ont fait la plupart de ses collègues républicains. Ce sont eux qui ont mené le bal durant une bonne partie des audiences. Des messieurs blancs qui défendent bec et ongle l'industrie des énergies fossiles et qui veulent réglementer le corps des femmes, mais pas l'usage des armes à feu. Ils se feraient passer sur le corps par Donald Trump et vouent une haine de principe à ces jeunes milliardaires libéraux dont les plateformes, et c'est bien ce qui rendait ces audiences ahurissantes, ont pourtant servi à continuellement désinformer et radicaliser leur électorat. On a beau dire qu'on ne s'étonne plus de l'hypocrisie et de la malhonnêteté intellectuelle de ce parti, c'était quand même assez sidérant. Des parallèles avec certaines scènes du film Oppenheimer venaient en tête. L'absurdité des audiences, l'hypocrisie des enquêteurs, le feeling de fin du monde associé aux terribles inventions mises en cause. Su Jit Chew, PDG singapourien de TikTok, s'est fait demander avec insistance « Êtes-vous membre du Parti communiste chinois ?» Il fallait voir Lindsey Graham, le sénateur de la Caroline du Sud, talonner le patron de Discord, Jason Saltron, avec son accent tout droit sorti d'Autant en emporte le vent. Qu'on honnisse les vues politiques du monsieur ou pas, il avait quand même le ton requis pour l'occasion, et il était presque tentant d'applaudir quand il a lancé « You, sir, have blood on your hands ». Comme si les idéologues de son parti n'en avaient pas. C'est que malgré tout, il avait raison, ce monsieur qui dégage le propriétaire de plantation à plein nez, comme ses collègues d'ailleurs, dont l'indignation et l'outrage étaient enfin dirigés contre une cible effectivement dangereuse. Si les républicains mettaient à contenir les dérives du Big Tech autant d'énergie qu'ils en mettent à attiser la haine de l'autre chez leurs électeurs, ils pourraient peut-être vraiment améliorer le sort de leur nation et, par extension, celui du monde entier. Mais on sentait bien que tout cela, malgré la gravité de la situation et la sincérité des détracteurs, était en pure perte. On aura offert au public un moment somme toute assez jouissif. Quelques précieuses images de petits milliardaires mal à l'aise qui se font rentrer dedans par des élus, mais au bout du compte. Ces enfants disparus ne reviendront pas. Et d'autres après eux seront aspirés. Personne ne peut refermer les portes qu'ont ouvertes les Zuckerberg et autres Citron. Mais il est encore possible d'armer nos enfants contre tout ce qui se passe à travers elles. C'est un chantier monumental qui relève d'abord et avant tout de l'éducation. Mais si les républicains avaient vraiment à cœur le sort des futures générations, ils pourraient peut-être y atteler leur formidable machine. C'était un mauvais quart d'heure pour les réseaux sociaux, un texte de Raphaël Germain paru le 9 février 2024 dans la presse.
La surexploitation des ressources en sable du delta du Mékong risque de le faire disparaître. Un texte d'Éric Desrosiers paru le 12 février 2024 dans Le Devoir. À première vue anodin, le sable est au cœur de l'extraordinaire croissance économique du Vietnam et de la catastrophe à laquelle fait face le delta du Mékong. Pas besoin d'attendre longtemps pour voir passer une péniche chargée de sable dans le delta du Mékong. Les longs bateaux et leurs dunes flottantes y remontent et descendent constamment le fil de l'eau à destination d'une nouvelle tour à construire à laquelle il faut du béton et d'une autre route à élargir qui a besoin de fondations. Ce spectacle serait plutôt réjouissant s'il n'était qu'une autre preuve du développement étourdissant du pays ces dernières années et des efforts déployés pour répondre à son besoin pressant de plus d'infrastructures. Malheureusement, il est aussi le résultat d'une extraction débridée du sable sur lequel s'est bâti le delta du Mékong au fil des millénaires et sans lequel il risque désormais de disparaître. Le problème vient peut-être d'abord du fait qu'on pense généralement que le sable n'a pas de valeur, observe Marc Guachot, responsable du programme Eau du Fonds mondial pour la nature, WWF, pour l'Asie-Pacifique, qui a produit plusieurs recherches sur la surexploitation de cette ressource. Économiquement, le sable ne vaut rien, sinon le coût de son extraction et de son transport. Le sable, les graviers et les agrégats se révèlent pourtant au deuxième rang des ressources naturelles les plus exploitées au monde, après l'eau, rapporte le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et l'utilisation de ces matériaux a triplé au cours des deux dernières décennies pour atteindre entre 40 et 50 milliards de tonnes par an. Dans le delta du Mékong, le sable est notamment tiré du lit des cours d'eau et de leurs berges, où le courant l'a déposé au terme d'un long voyage commencé aux sources du grand fleuve dans l'Himalaya. Mais voilà, les nombreux barrages de béton érigés en amont retiennent désormais les 4/5 du sable qui serait naturellement venu se déposer. Comme ce nouvel apport est de 14 à 17 fois inférieur à ce qui est extrait chaque année, le WWF a récemment estimé qu'on aura épuisé toutes les réserves de sable du delta du Mékong d'ici 2035. Une armure qui s'effrite. L'affaire n'est pas seulement un problème pour la construction de bâtiments, de ports, de ponts et de routes. Ce sable, comme les sédiments qu'on ramasse aussi dans le processus d'extraction, est l'armature et l'armure du delta du Mékong. Or, en creusant le lit des cours d'eau, on accélère l'érosion de leurs berges et on favorise l'entrée de l'eau de mer de plus en plus profondément dans les terres. Comme moins de sable est transporté jusqu'à la mer, le delta voit également disparaître la protection naturelle contre les tempêtes que lui offrent les bancs de sable, qui se forment jusqu'à une trentaine de kilomètres de ses côtes. S'alarme Nguyen Ou Tien, un expert et consultant international. Pour se protéger contre la montée du niveau de la mer et ses coups de boutoir durant la saison des typhons, on a été porté à élever des digues, notamment de béton. Mais cela a aussi pour effet de réduire encore plus la capacité des cours d'eau de convoyer jusqu'à la côte son mécanisme naturel de défense. En fait, dit Marc Guachot, la plus grande valeur du sable dans le delta du Mékong, même du strict point de vue économique, est de le laisser où il est. Il n'y a pas de protection contre les changements climatiques mieux adaptés, plus efficaces et plus rentables. La lutte s'organise. De plus en plus consciente de la gravité de la situation, les autorités ont commencé par mettre un terme à l'exportation de sable, entre autres vers Singapour. Elles se sont aussi mises, pour la première fois, à mesurer les réserves de sable dont elles disposent et ont commencé à en réserver l'utilisation aux projets critiques. Les ingénieurs et les entrepreneurs devront apprendre de nouvelles techniques de construction, disent les experts. On parle notamment de construire les autoroutes en hauteur afin de réduire la quantité de sable et d'agrégats nécessaires, en plus de diminuer le poids exercé sur des territoires qui sont déjà portées à s'affaisser dans le delta du Mékong. Les autorités ont également déclaré la guerre à l'extraction illégale de sable. Cette lutte s'avère toutefois difficile et subit des passe-droits, à savoir le nombre de péniches qui se chargent de sable comme par magie la nuit. Il faut dire, rapporte la presse locale, qu'après l'arrestation de 18 personnes impliquées dans ce trafic illégal cet été, le prix du sable avait immédiatement bondi et que de nombreux projets de construction avaient dû être arrêtés. C'était la surexploitation des ressources en sable du delta du Mékong risque de le faire disparaître. Un texte d'Éric Desrosiers paru le 12 février 2024 dans Le Devoir.
Les villes n'ont pas toutes la même tolérance à l'égard des campements. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 19 février 2024 dans Le Devoir. Les campements de sans-abri font désormais partie du paysage urbain dans de nombreuses villes du Canada. Dans plusieurs d'entre elles, notamment à Montréal, les autorités démantèlent de façon quasi systématique ces regroupements de tentes, alors qu'ailleurs, des municipalités prônent la tolérance. C'est notamment le cas à London et Saskatoon, où, plutôt que de chasser les campeurs, on tente d'améliorer leurs conditions de vie. Début février 2024, la défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, a réclamé la fin immédiate des démantèlements de campements et demandé au gouvernement fédéral un plan national pour s'attaquer à cette question, qu'elle décrit comme une crise des droits de la personne. Dans le cadre de son enquête, Marie-Josée Houle a constaté que, dans bien des villes au pays, les policiers étaient rapidement dépêchés sur les lieux des campements pour y faire disparaître les tentes, mais sans proposer de réelles solutions de rechange pour loger les campeurs. Même en l'absence de recours excessif à la force, le démantèlement d'un campement est un acte intrinsèquement violent, souligne-t-elle. Elle souhaite qu'avec un plan national, tous les gouvernements du pays veillent à ce que les personnes vivant dans des campements aient accès aux produits de première nécessité, non seulement pour survivre, mais aussi pour vivre dans la dignité. À l'automne 2023, Le Devoir avait d'ailleurs relevé que plus de 4200 campements avaient été démantelés dans les 5 plus grandes villes du pays. À Montréal, au moins 460 campements de fortune ont été démantelés en 2023, rapportait la presse. À l'opposé, Longueuil continuera de faire preuve de tolérance en s'appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés et la jurisprudence qui stipule que, si une ville ne peut loger toutes les personnes itinérantes, elle ne peut démanteler les campements. Des approches différentes. Ailleurs au Canada, les stratégies diffèrent aussi d'une ville à l'autre, a observé Marie-Josée Houle. Plutôt que de démanteler les campements, la ville de London, en Ontario, a mis sur pied des équipes mobiles pour faire le lien entre les services sociaux et les campeurs, afin que ceux-ci puissent avoir accès aux soins de santé, a constaté Mme Houle. La municipalité a même installé des toilettes portables et des stations de lavage à proximité des campements. Cette approche empathique suscite toutefois les critiques de citoyens qui reprochent à la ville de normaliser ses campements, rapportait le Globe and Mail en novembre. À Saskatoon, le chef du service de sécurité incendie prône aussi la tolérance. Au-delà des inspections effectuées pour s'assurer de la sécurité des installations, les équipes déployées par le service visitent les campements de façon régulière afin de mettre en contact les itinérants avec les services sociaux et le service d'aide au logement. Cela n'a tout de même pas empêché les autorités de démanteler, en novembre dernier, un camp où un feu s'était déclaré. À Halifax, en Nouvelle-Écosse, les autorités n'autorisent pas la présence des campements, mais elles permettent aux occupants de rester dans leurs abris de fortune jusqu'à ce qu'un logement adéquat ait été trouvé et leur ait été offert. le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal déplore l'attitude rigide des autorités montréalaises. On vise directement la dignité et la sécurité des campeurs quand on les force à se déplacer et à aller se cacher encore plus loin dans un campement qui, espère-t-il, ne sera pas démantelé, estime Jérémy Lamarche. À lui seul, l'arrondissement de Ville-Marie a été le théâtre de 420 démantèlements en 2023, rappelle-t-il. C'est plus d'un démantèlement par jour. La crise du logement que traverse le pays est étroitement liée à celle de l'itinérance, souligne François Gosselin, directeur général d'Ensol Laivant, un organisme de Drummondville. Si on veut régler le problème de l'itinérance, il faut arrêter de se casser le bessic. Il faut que les gens aient un logement, résume-t-il. En attendant, peut-on au moins laisser le monde dans leur tente? Quand les tribunaux s'en mêlent. À plusieurs reprises au cours des dernières années, les tribunaux ont été appelés à se prononcer sur la question des campements. En 2008, la Cour supérieure de la Colombie-Britannique avait conclu que les villes ne pouvaient, par règlement, interdire aux itinérants de s'abriter la nuit afin de protéger leur vie et leur sécurité lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'offrir un nombre suffisant de places en refuge, rappelle Marie-Ève Sylvestre, doyenne et professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. D'autres décisions ont suivi, notamment à Vancouver, à Waterloo et à Kingston. Madame Sylvestre estime que le rapport de Marie-Josée Houle, qui invoque le droit international en faveur du droit à un logement adéquat, va alimenter les recours devant les tribunaux. Je pense que c'est un appui de taille pour ces litiges. Ça va renforcer les arguments qui sont présentés devant les tribunaux et qui essaient de mettre un terme au démantèlement. La cause impliquant la ville de Saint-Jérôme sera importante, dit-elle, d'autant qu'au Québec, aucune décision sur le fond n'a été rendue par les tribunaux dans ces dossiers. Elle déplore cependant ce recours aux tribunaux. À la lumière des jugements rendus ailleurs au Canada, les villes auraient dû renoncer aux mesures punitives, croit-elle. C'était « Les villes n'ont pas toutes la même tolérance à l'égard des campements », un texte de Jeanne Corriveau paru le 19 février 2024 dans Le Devoir.